Florent Mouchard, vous êtes maître de conférence en langue et civilisation russe et directeur adjoint du département de russe à l'université de Rennes 2. Bonjour.
Bonjour.
Alors ensemble, on va tenter de comprendre un peu les causes de la guerre en Ukraine qui sévit maintenant depuis 9 jours. Et ça passe notamment par la compréhension aussi du président Vladimir Poutine et de son ascension au pouvoir depuis quelques années maintenant. Peut-être pour commencer, est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'instauration de Poutine en tant que président? Comment est-ce qu'il a accédé au pouvoir et dans quel contexte aussi il est arrivé au pouvoir?
Alors il est arrivé au pouvoir dans des circonstances finalement relativement étranges. C'est l'année 1999 qui a été un tournant dans son ascension. Juste avant de parvenir vraiment aux plus hauts échelons du pouvoir, il avait été nommé directeur du KGB et il avait, c'est une histoire qu'on est un peu obligé de raconter au conditionnel parce qu'on ne sait pas encore exactement tout ce qui s'est passé, mais il y a de très fortes probabilités pour que ce soit lui qui ait tiré le président de l'époque, Boris Yeltsin, d'une histoire... qui aurait été d'une histoire de corruption qui aurait été très dommageable pour lui en faisant publier une vidéo où on voyait le procureur chargé, ou un homme qu'on présentait comme le procureur chargé de l'enquête avec des prostituées, et donc ça avait complètement décrédibilisé ce personnage. Et donc Poutine était président du KGB, il a été ensuite été nommé Premier ministre. Et c'est à ce moment-là que, à l'été, été au début de l'automne 1999, a eu lieu cette série d'attentats où plusieurs immeubles d'habitation avaient été, on avait mis des explosifs, ils avaient explosé et ça avait fait plusieurs centaines de morts. Vladimir Poutine avait alors accusé les terroristes tchétchènes d'avoir lancé cette campagne d'attentat. C'est bien que des hommes du FSB, le service de sécurité russe, aient été ensuite trouvés on avait retrouvé ces hommes-là dans le sous-sol d'une cave, ou avec ce qui semblait être des explosifs. Donc le mystère reste entier, même si la probabilité est que tout de même pour que les services russes aient eu peut-être un rôle, disons, majeur dans cette affaire. Et c'est à ce moment-là que Poutine avait été venu un peu sous les feux de la rampe, qu'il avait attiré l'attention du public au cours de cette campagne d'attentat en prononçant sa fameuse phrase que nous allons buter les terroristes jusque dans les chiottes, ce qui avait lancé un peu, ce qui avait posé son style. Le style qui lui est particulier et qu'il a d'ailleurs toujours maintenu jusqu'à maintenant.
D'accord, et donc il est devenu, suite à ça, président. Peu à peu, sa cote de popularité a fortement augmenté, jusqu'à atteindre 71% des suffrages en 2004, au moment de son élection. Comment expliquer cela? Qu'est-ce qui, sur le plan à la fois économique, aussi politique, et peut-être aussi sur le plan géopolitique, a permis au peuple russe vraiment progressivement de l'accepter et de le valoriser comme président?
Ce qui lui a donné une certaine popularité, disons que la base du discours poutinien des années 2000, c'est qu'il apportait une certaine stabilité et une certaine prospérité en rétablissant ce qu'il appelait la verticale du pouvoir, c'est-à-dire un système où la Russie n'était plus livrée aux oligarques, ces fameux milliardaires qu'on rendait plus ou moins directement responsables des années de chaos économique et de pauvreté qui avaient été les années 90, qui avaient été très difficiles à supporter pour l'ensemble de la population.
Et donc à l'arrivée au pouvoir de Poutine, progressivement le niveau de vie a augmenté. Ça a fortement contribué justement aussi à sa cote de popularité, on l'entend. Et peu à peu, il prend de plus en plus de place et il tend, peut-être vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais concentrer un peu les pouvoirs. Notamment, il a contourné un petit peu la Constitution en nommant Dmitri Medvedev en 2008, puisqu'il avait atteint ses deux mandats successifs.
En le faisant élire plutôt qu'en le nommant, mais enfin c'est
oui,
ça.
Oui, en le faisant élire, pardon.
C'est ça.
Mais tout en restant quand même un peu dans l'ombre du pouvoir, pour ensuite mieux revenir. Et il a été jusqu'à proposer début 2020 une réforme constitutionnelle qui lui permet donc à partir de 2024 de pouvoir encore se présenter
autant de fois qu'il le souhaite.
Voilà, donc comment expliquer l'absence de réaction, c'est peut-être un mot fort, puisqu'il y a quand même eu des protestations en Russie, mais malgré tout, le peuple est assez coopérant. Comment expliquer cela
Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Du point de vue de la population générale, je dirais, il y a beaucoup, il y a une très grosse méfiance et désintérêt envers la politique, envers les politiciens. Et surtout avec la crainte en fait que les troubles reviennent, que la pauvreté économique revienne, etc. Il faut dire aussi que Vladimir Poutine s'est lancé, alors surtout essentiellement depuis 2011, ça avait commencé un petit peu avant, mais dans une stratégie, je dirais d'éradication à peu près complète de toute opposition, qui soit vraiment une opposition, c'est-à-dire pas simplement, vous avez deux formes d'opposition en Russie. Vous avez des partis à la Douma qui ne sont pas le parti présidentiel, mais qu'on peut pas vraiment qualifier d'opposition puisqu'ils votent systématiquement en faveur des projets de loi qui sont présentés par le gouvernement ou par le parti présidentiel.
La Douma qui est la chambre basse.
La chambre basse du Parlement, voilà, l'équivalent de l'Assemblée nationale. Et vous avez aussi vous avez une opposition alors plutôt, différentes formes d'opposition, mais celle à laquelle on pense généralement c'est une opposition plutôt urbaine, plutôt éduquée, plutôt pro-occidentale entre guillemets. Et cette opposition-là, donc qui a manifesté, qui a eu plusieurs figures assez considérables, cette opposition-là a été systématiquement évincée, chassée de l'expression publique, de la sphère publique, de la rue même, voilà. Et il y a eu même des assassinats de plusieurs opposants qui ont eu une résonance médiatique assez considérable, mais qui n'ont pas empêché donc le régime de se consolider encore plus, ou je dirais dans un certain sens au contraire.
Et ce régime s'est notamment consolidé, on le sait, la politique de Poutine tend quand même à avoir une mainmise sur les territoires alentours de la Russie, notamment les pays post-soviétiques, si on peut dire ça comme ça. Comment c'est perçu par la population russe, cette volonté d'extension, ou en tout cas de contrôle des pays alentours, et notamment, on y reviendra tout à l'heure, de l'Ukraine.
Le président Poutine a répété à plusieurs reprises que la chute de l'Union soviétique avait été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Je pense que, alors, c'est un discours aussi qui est répété depuis maintenant 15 ou 20 ans à longueur de journée par les télévisions, les différents médias, etc. Donc je pense que c'est un discours qui est partagé par une large partie de la population.
D'ailleurs, on le voit puisque sa cote de popularité a fortement augmenté, notamment au moment de la guerre en Géorgie en 2008 et en 2014 avec l'annexion de la Crimée. Donc ça se vérifie aussi.
Voilà, effectivement. Ouais. Et il faut dire aussi que la Russie a eu une certaine tendance à vouloir maintenir les pays voisins dans une certaine instabilité, et ça depuis très tôt, en fait, depuis 1992-1993, depuis la chute de l'Union soviétique. Ça a été le début des crises, de la crise abkhaze. En Géorgie, donc ce qui a donné lieu à l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, qui a donné lieu ensuite, très longtemps après, à la guerre de 2008. Et ça a été aussi le cas avec la Transnistrie, c'est-à-dire cette république sécessionniste qui se trouve en Moldavie, qui représente la partie du territoire moldave qui est entre le fleuve Dniestre et la frontière ukrainienne, donc une petite bande de territoire. Et dans les deux cas, on a observé le même genre de situation. Bon, je passe sur les détails. Le même genre de situation, c'est-à-dire prendre avantage d'une crise existante pour maintenir sous perfusion un État un pseudo-État qui empêche l'État voisin, en fait, qui devrait normalement être indépendant, de se développer librement. Et c'est ensuite la stratégie qui a été répétée en 2014 avec les républiques séparées ukrainienne sur le territoire de l'Ukraine, donc de Lugansk et de Donetsk.
Et on voit qu'on parlait tout à l'heure du rôle de la télévision. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur... Est-ce qu'on peut parler de propagande dans le cas de la Russie? Comment, quel est le rôle des médias? Quelle est la censure sur les médias? À quel point ça influence l'opinion publique en Russie?
Une des premières mesures de Vladimir Poutine quand il a pris le contrôle du gouvernement russe, ça a été de mettre au pas certaines chaînes de télévision et certains journaux. Ensuite, ce contrôle ne s'est jamais vraiment démenti, et au contraire, il est allé en se renforçant. Avec les années. Si bien qu'aujourd'hui, vous avez à peine 2-3 médias qu'on peut dire réellement indépendants en Russie, avec en plus 2 d'entre eux donc, qui sont en train de cesser leur activité donc suite à la crise ukrainienne. Mmh. Je pense à la radio L'Écho de Moscou et à la chaîne de télévision qui s'appelle Dosht. Je crois que le seul média qui soit réellement indépendant du pouvoir, c'est aujourd'hui le journal qui s'appelle Novaya Gazeta.
Et justement, vous parliez de la guerre en Ukraine. Alors, quels sont les arguments qui ont été avancés par Vladimir Poutine pour justifier cette guerre? On a entendu parler de démilitarisation, de dénazification. On sent qu'il voit l'Ukraine comme une menace. Comment l'expliquer? L'Ukraine est même au-delà, l'UE, l'OTAN.
Alors, effectivement, il y a ce terme de dénazification qui peut paraître assez étrange à première vue, qu'il faut bien expliquer. Il y a aussi, je pense que c'est plus profond, il y a chez Poutine... on l'a bien vu dans son discours du lundi qui a précédé l'invasion, il y a une vision historique qui correspond, qui est assez curieuse, hein, là encore pour les historiens professionnels, mais qui néanmoins est visiblement très ancrée chez lui. Et qui correspond à des convictions qu'il a dû se forger au cours de lectures ou de rencontres ou de diverses circonstances. Cette conviction, c'est que l'Ukraine, c'est que l'Ukraine, les Ukrainiens et les Russes, et aussi d'ailleurs les Biélorusses, ne forment qu'un seul peuple. Parce qu'ils ont, c'est vrai, ils partagent la même origine, et que l'Ukraine, en fait, n'a été créée que comme une perversion de la Russie, une espèce d'anti-Russie. Et donc une anti-Russie qui aujourd'hui est peuplée de néo-fascistes, de néo-nazis qu'il importe en fait d'éradiquer finalement. Et c'est bien le sens de la guerre qu'il est en train de mener. Il faut ajouter à ça, pour que l'explication soit, je l'espère, encore plus claire, un élément très important qui est le mythe invraisemblable qui s'est créé en Russie sur la victoire soviétique dans la Seconde Guerre mondiale contre le nazisme. Visiblement, pour Vladimir Poutine, donc qui est né peu après la guerre, pour Vladimir Poutine, il s'agit en fait de continuer le même combat. Le même combat de lutte contre le nazisme. Et c'est pour ça qu'il parle de dénazification. Du coup, ça n'a finalement pas grand rapport avec ce qu'on peut savoir. C'est même pas ce qu'on peut savoir. Il suffit de se rendre en Ukraine pour voir que ça correspond quand même assez peu à la réalité.
Ouais, donc on sent qu'il y a une véritable instrumentalisation de l'histoire au service de sa politique et de ses ambitions. Et comment c'est perçu ça par le peuple russe? On a dit tout à l'heure, les médias participent à véhiculer un message un peu erroné de cette guerre. Comment Poutine explique et justifie cette guerre auprès de son peuple? Et quel est le regard aussi du peuple russe sur cette invasion de l'Ukraine?
C'est relativement difficile à dire. La Russie est en train de se fermer, hein, où les sanctions sont en train aussi d'enfermer la Russie sur elle-même. Il semblerait quand même que le pouvoir soit beaucoup moins populaire qu'on ne le dit, et que la guerre en Ukraine, dans la mesure où elle est connue, parce que les médias ne parlent que d'opérations spéciales. Si vous regardez les médias russes en général, ils parlent d'opérations spéciales. spéciale au Donbass. Ils évitent de dire que l'Ukraine entière est envahie, enfin au moins les deux tiers du territoire ukrainien sont à l'heure actuelle envahis. Et voilà. Et donc, ce discours de dénazification, etc., a été pensé pour avoir un soutien maximum dans la population russe. Il n'empêche que malgré tout ça, les Russes sont quand même au courant de ce qui se passe par les réseaux sociaux, ceux du moins qui veulent l'être, parce que tout le monde ne l'est pas, tout le monde n'a pas ou ne veut pas avoir accès aux réseaux sociaux. Ceux du moins qui veulent l'être sont au courant. Et savent très bien qu'il s'agit de bien plus que d'une opération de police dans l'est de l'Ukraine.
Et donc on l'a vu, le conflit a pris une grande ampleur, notamment ce matin on a vu que la centrale de Zaporizhzhia, donc la plus grande centrale nucléaire d'Europe, a été bombardée et les réactions ne se sont pas fait attendre, notamment Zelensky qui accuse Moscou d'avoir recours à la terreur nucléaire. D'ailleurs il avait déjà mentionné sa mainmise sur l'arme nucléaire, sans pour autant le dire de manière explicite, mais comment expliquer aussi cette manipulation de Poutine, cette mainmise sur le nucléaire ? Qu'est-ce qu'il veut ? Quelle est sa volonté derrière tout ça, derrière cette menace ?
Alors, c'est vrai que la question de l'arme nucléaire ou du nucléaire en général surgit un petit peu trop souvent au cours des derniers jours pour que ce soit assez, donc c'est un petit peu stressant, c'est vrai. Il y a eu la prise de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il y a eu les menaces implicites de Vladimir Poutine auxquelles ont répondu certaines déclarations plus ou moins implicites aussi d'officiels occidentaux. Il y a enfin maintenant cet incident de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Il y a une doctrine d'emploi de l'arme nucléaire en Russie qui est normalement, qui existe tout à fait dans un cadre... ça ne peut pas, comme pour les autres pays, ça ne peut pas être une arme qu'on emploie comme ça,
c'est
etc. C'est réglementé, ouais. Voilà. Il y a une procédure d'utilisation des armes nucléaires. Il y a les armes nucléaires tactiques, il y a les armes nucléaires stratégiques. Bon. D'un autre côté, il est vrai qu'on constate depuis quelques années dans le discours officiel russe, sur les médias, de la part de présentateurs vedettes, par exemple, ou dans des romans de politique fiction, des choses comme ça, on voit que le sujet de l'emploi de l'arme nucléaire agite beaucoup les esprits en Russie et que parfois on voit même des gens, je pense à des présentateurs de télévision pour être précis, qui jouent un peu avec l'idée d'utiliser cette arme nucléaire. Et donc voilà. Après, que faut-il en penser ? Je pense que, en tout cas, j'espère que c'est ça. Comment dire ? C'est essentiellement un moyen de chantage, en fait. Mais la remarque que je faisais tout à l'heure, c'est vrai qu'on voit trop souvent revenir la question nucléaire dans ce conflit, et on aimerait bien que ça se voilà.
Et ce conflit, il a aussi des impacts sur la population civile en nucléaire et sur, de manière générale, sur l'humanité en tant que telle, puisqu'il disait initialement qu'il n'y aurait pas eu d'atteinte aux civils. Et malgré tout, dans les faits, on constate que suite au bombardement, il y a quelques civils quand même qui sont tués. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a approuvé vendredi une résolution en faveur d'une commission d'enquête, donc vendredi aujourd'hui, ce matin, sur les violations justement de ces droits humains et du droit humanitaire, notamment en Ukraine. Donc à une écrasante majorité, mais il y a aussi certains pays qui sont restés neutres ou d'autres qui ont voté non, et notamment la Chine qui est restée neutre. Comment s'est perçu justement ce conflit à l'échelle mondiale, entre autres par la Chine comment cette volonté d'expansion de la Russie, et notamment la façon dont elle le justifie, est-ce que cette menace soi-disant de l'OTAN, de l'UE est partagé par d'autres pays dans le monde aussi ?
Alors, je pense que tout le monde peut constater qu'il y a une très grande prudence, en fait, de la part de la Chine, qui s'abstient, évidemment, qui a elle-même sa propre opposition avec les Occidentaux, mais qui s'abstient de soutenir ouvertement la Russie dans cette affaire. Et voilà. Sachant que les relations qui lient les deux pays sont très étroites et que la Chine a des intérêts économiques qui sont tout à fait considérables en Russie, comme source de matières premières en particulier, je pense que ce qui me frappe dans la réaction chinoise pour l'instant, c'est la très grande prudence, et y compris pour ne pas désavouer la Russie, mais ne pas s'engager non plus trop à ses côtés.
Et concrètement, qu'est-ce qui anime Poutine dans cette déclaration de guerre à l'Ukraine, enfin dans cette guerre à l'Ukraine, quels sont ses objectifs? Est-ce qu'on a une idée de ce qu'il cherche concrètement?
Alors, ce qui est répandu comme conception à ce sujet, c'est qu'il voudrait sans doute s'emparer de toute l'Ukraine pour y installer un gouvernement un petit peu, pour la mettre sous contrôle, un peu comme il vient de le faire pour la Biélorussie, de manière beaucoup moins sanglante, évidemment. Il est possible que ce soit ça, mais le problème de ce personnage est que pour ceux qui lui sont qui doivent lui faire face, c'est que il est très doué pour entretenir le mystère sur ses intentions réelles. Donc on peut essayer de deviner ses objectifs, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile.
Oui, on comprend que c'est un peu une situation délicate aussi pour les pays de l'Union européenne, notamment suite à la menace qu'il avait faite envers les pays qui oseraient s'immiscer dans le conflit. Et comment Poutine s'adresse aussi à la population ukrainienne? On a dit tout à l'heure qu'il valorisait le fait que les Ukrainiens étaient un peu comme des frères. Et malgré tout, il bombarde l'Ukraine. Donc comment il essaye d'atteindre les Ukrainiens?
Vous avez, je crois, cette scène dans le film Mars Attacks. Vous voyez les Martiens qui attaquent. Permettez-moi cette petite. vous voyez les Martiens qui attaquent en disant nous venons en paix et qui tuent tout le monde en même temps. Ben, je suis bien obligé de dire que c'est un petit peu ça qui se passe.
Ouais. Et notamment, on a vu des images récemment d'affiches qui étaient collées en Ukraine sur lesquelles on pouvait lire la Russie ne commence pas les guerres, elle les termine. Donc, soi-disant que la Russie vient un peu comme une sauveuse du peuple ukrainien qui est en guerre depuis quelques années. C'est vrai qu'il y a aussi un retournement de situation, une façon de...
Disons que oui, ça crée quand même une grosse dissonance cognitive.
Ouais. Eh bien, peut-être un dernier mot aussi sur les oligarques. Certains ont manifesté leur opposition aux décisions de Poutine, malgré tout ce que ça implique pour eux. Quel impact peuvent-ils avoir sur ces décisions? Est-ce qu'on peut peut-être espérer un changement de bord de la part de Poutine, de par ces réactions-là?
De la part de lui-même, c'est pas sans doute pas la version la plus probable. Il a l'air, on l'a vu dans l'entretien qu'il a eu récemment avec le président Macron hier, je crois. Donc Emmanuel Macron a bien dit que selon lui, Poutine paraissait très décidé à mener son opération jusqu'au bout. Je pense que si changement il y a en Russie, il viendra d'une division au sein de l'élite russe. Mais même ça, finalement, est pas si... En fait, on n'en sait rien. C'est pas si probable que ça. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Ça dépend du degré de suggestion et d'intimidation dans lequel est plongée aussi l'élite russe
Non, merci beaucoup, Florent Mouchard, d'être venu nous éclairer un petit peu sur la guerre en Ukraine et l'ascension aussi de Poutine et tout ce qui nous a mené à ça. On rappelle que vous êtes maître de conférence en langue et civilisation russe à l'Université Rennes 2 et on vous remercie d'avoir répondu à notre invitation.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie.
Merci à toi, Rebecca.